Alors, en Floride, dans la ville de Tampa, c'est la panique. C'est la panique. Il y a une chasse à l'homme qui a été engagée. Ils essaient de retrouver ce qui ressemble à un tueur en série. Il aurait fait 3 victimes et ce qui laisse penser que c'est un tueur en série, c'est la façon avec laquelle il opère. Il y a comme une espèce de modus operandi, puis pour essayer de comprendre ça, on va aller rejoindre Christian Page, co-animateur de l'émission Mythes et complots, et qui collabore aussi à notre émission, et qui s'est intéressé à ce phénomène des tueurs en série au cours des dernières années. Christian, bonjour.
Salut Bernard.
Alors, décris-nous un petit peu d'abord pourquoi les autorités de la ville de Tampa, puis la police de Tampa en Floride, pensent que c'est un seul et même tueur qui a abattu ces 3 personnes avec une arme à feu, là.
Mais en fait, ce qui t'as mentionné les deux critères, en fait, qui déterminent le tueur en série, c'est-à-dire que selon les règles du FBI, le tueur ou le suspect doit avoir 3 victimes à son actif, ce qui est le cas avec nos fameuses victimes. Il faut le dire, ces 3 victimes ont été abattues sur une période de 2 semaines, à moins d'un kilomètre à peu près les unes des autres. Et ces victimes-là avaient toutes pris le même bus municipal. Donc, c'est tout près de l'arrêt de bus, finalement, qu'elles ont été abattues. Les policiers supposent que l'homme en question, tu l'as mentionné, c'est la façon d'opérer. Cet homme les a abattus avec une arme de poing. Donc, il s'est approché, sans doute, près de ses victimes, a attendu qu'elles soient devant ou près d'un endroit isolé et les a abattus. Même à un moment donné, des policiers qui patrouillaient dans le secteur ont entendu une détonation. Ils sont arrivés sur place, mais n'ont pu que constater la victime. Ils n'ont pas vu personne dans le quartier, n'ont pas vu de suspect. Quoique depuis hier, les autorités ont mis en ligne une image qui montre un homme avec un survêtement blanc, là, ce qu'on appelle par chez nous un kangourou, avec un capuchon. Donc, on ne dit pas que c'est le suspect, mais il a été vu dans l'endroit où aux heures à peu près où les victimes ont été assassinées. Alors, il devient, tu comprendras, un individu qui a beaucoup d'intérêt pour les autorités. Ce qui frappe ici dans l'affaire de Tampa, en fait, on est dans un quartier de Tampa, un quartier ouvrier de Tampa. Ce qui étonne ici, c'est l'arme utilisée. C'est très rare qu'un tueur en série va utiliser une arme à feu de cette manière-là. C'est-à-dire que les tueurs en série, bon, l'historique, on les connaît bien maintenant parce qu'il y a des bureaux du FBI, des sciences du comportement. Je pense que les gens qui écoutent l'émission aujourd'hui sont peut-être familiers avec des séries de policières un peu comme Esprit criminel où on voit ces profilers. Donc, ce bureau des gens qui regardent les comportements criminels, on connaît bien les tueurs en série. Et généralement, les tueurs en série, on identifie rapidement le motif, ce qui n'est pas le cas ici. Aucune des victimes n'a été abusée sexuellement, aucune des victimes n'a été volée. C'est vraiment un peu comme ce que les Américains appellent un kick killing, hein, pour le fun. Donc le type s'approche, paf, abat sa victime. Les tueurs en série vont préférer un contact plus rapproché d'habitude avec leurs victimes. Elles vont, par exemple, au Québec, on a eu un tueur en série à la fin des années 90, William Patrick Fife. Bon, on le suspectait déjà en 1900 qu'il aurait tué peut-être une première victime en 89. Il aurait peut-être aussi été un violeur en série au début des années 80. Donc, les policiers avaient déjà un peu le profil de l'individu. Mais il est surtout connu pour une série de meurtres commis sur des femmes à la fin des années 90, où là, il y avait agression sexuelle et Fife utilisait un couteau comme beaucoup de tueurs en série. C'est ce contact un peu privilégié que certains tueurs en série vont avoir avec leurs victimes. Dans le cas présent, rien de cela. Donc, un individu qui arrive avec une arme de poing et abat ses victimes, ce qui est relativement rare. L'arme de feu est souvent utilisé dans ce qu'on appelle, parce qu'il faut faire la distinction, on a les tueurs en série et les tueurs de masse. Donc, les tueurs en série vont commettre des crimes isolés, mais toujours en suivant la même règle et généralement en utilisant souvent la même arme. Alors que le tueur de masse, un peu comme la fusillade de Las Vegas, ça ne se produit qu'une seule fois. Le type, généralement, va faire un maximum de victimes et dans bien des cas, il va se suicider. Alors que le tueur en série, lui, va plutôt éventuellement essayer de défier les autorités. C'est un peu d'un jeu de chat et souris avec les autorités. Et à moins de commettre une erreur, évidemment, il va se faire prendre par les autorités. Il va pouvoir récidiver ses crimes avant de se faire prendre par les autorités.
Alors là, évidemment, à Tampa, ce qu'ils essaient de faire, c'est de prévenir une quatrième victime. Ils essaient de, ils essaient dans le fond de l'arrêter, de le retrouver avant qu'il ne frappe à nouveau.
Voilà. Les autorités ont offert d'abord une somme de 25 000 $ à quiconque pourrait détenir une information permettant d'arrêter l'agresseur. Comme on sait que les trois victimes ont emprunté le même autobus pour se rendre sur place dans le quartier, alors les autorités ont demandé à ce que les compagnies qui gèrent le trafic urbain de changer les circuits pour empêcher éventuellement que l'autobus arrive aux mêmes heures, au même endroit, parce qu'évidemment, on est persuadé maintenant que le tueur doit surveiller l'arrivée de ses victimes ou le départ de ses victimes au moment où elles vont monter dans l'autobus pour les abattre. Alors là, c'est un peu cette panique. On pense bien sûr à l'avènement la semaine prochaine de la fête de l'Halloween. Alors bien sûr, on voudrait pas que la prochaine victime soit un enfant qui tombe sous les balles de cet assassin. Alors, on le comprend, là, depuis, en fait, hier aussi, les policiers accompagnent les enfants à l'école. Donc, on surveille les autobus municipaux et les autobus scolaires parce que on ne sait pas qui sera la prochaine victime. Faut le dire, dans le cas de nos victimes, il y a deux hommes et une femme. Il n'y a pas de caractéristiques sur la couleur de la peau, la race, le sexe. En fait, tout homme ou toute femme déambulant dans les rues de Tampa et en fait dans ce quartier de Heights là de
Seminole Heights.
Toutes les personnes déambulant dans ce quartier deviennent potentiellement une victime.
Il nous reste seulement une minute. Habituellement, on finit par les attraper comment les tueurs en série? C'est une erreur de trop? C'est une victime de trop?
C'est vraiment, dans le cas du tueur en série, c'est qu'il n'y a pas de relation avec sa victime. Alors, il est excessivement difficile à trouver. Au moment où on se parle, d'ailleurs, on croit qu'aux États-Unis, il y aurait à peu près 50 tueurs en série à l'œuvre. En fait, au moment où on en attrape un, il y en a un autre qui se met à l'œuvre. Donc, on a à peu près toujours 50 tueurs en série qui œuvrent sur le territoire américain. Et généralement, ces gens-là vont développer une assurance. Plus ils vont faire des victimes, plus elles vont développer une assurance et très souvent, elles vont se mettre à défier les autorités, envoyer des lettres à la police, commettre un crime près d'une route ou d'un endroit où il y a un poste de police. Donc, elles vont défier les autorités et souvent, ce sont ces abus qui vont entraîner leur arrestation.
C'est très intéressant, en espérant qu'il le retrouve effectivement avant qu'il ne frappe à nouveau. Si jamais, en tout cas, je prends l'engagement, si devant, là, si jamais il faut en reparler, Christian, on retournera à toi, mais suis ça pour nous, s'il te plaît. Christian Page, co-animateur de l'émission Mythes et complots, collaborateur à l'émission. Merci.
Ça me fait plaisir.
Alors, voilà, je me suis gardé une petite minute, chers auditeurs, pour vous annoncer quelque chose. Pour vous dire que demain, à l'émission, de midi et quart, grosso modo, à 13h, on va avoir en studio Valérie Plante, la chef de projet Montréal, candidate à la mairie de Montréal. Vous savez que le 5 novembre prochain, à travers le Québec, les citoyens vont aller aux urnes. Et puis à Montréal, ben, il y a une lutte